J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Anne-Lie. Je suis très content d'être là en tout cas.
Moi aussi, et je pense qu'on est tous et toutes ravis de t'entendre avec la voix du studio.
Alors moi je suis juste content d'être en direct, hein, parce que si vous êtes ravis de m'entendre, alors là, je suis vraiment flatté. Je suis content de... Alors c'est un jour spécial aujourd'hui avec le retour des terrasses, le retour d'une vie presque normale en tout cas, et moi ben, voilà, je suis... De retour dans l'oreille curieuse en vrai, en chair et en os, et ça me fait plaisir. Alors, bon, encore un prêt-à-penser de plus, donc dans des conditions un peu plus normales, on va dire. Je salue les auditeurs et auditrices de l'oreille curieuse. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène psychologique, alors qui moi me passionne beaucoup, qui porte un nom un petit peu compliqué, mais comme c'est de coutume dans le prêt-à-penser, je vais essayer de rendre les choses plutôt intelligibles et surtout intéressantes. Alors ça, c'est une ambition, mais je vais essayer en tout cas de m'en approcher. Ce concept, ça s'appelle la dissonance cognitive. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la dissonance cognitive, toi, Anne?
Dissonance, oui. Cognitif, oui. Je peux essayer d'inventer un truc. Ah, je crois que j'ai des pistes, mais je m'y risquerai peut-être pas. Ah
bah, tu nous diras si ça se confirme ou pas après mon
explication. Il y a une idée de contradiction, quand même.
Voilà, exactement. C'est finalement, pour le dire très simplement, c'est le phénomène psychologique qui peut expliquer la mauvaise foi. Mais pas que la mauvaise foi envers les autres, mais surtout la mauvaise foi envers soi-même. En fait, c'est un biais cognitif qui nous explique comment est-ce qu'on est amené très souvent dans la vie quotidienne à se mentir en fait, ou à modifier nos propres opinions en fonction de contradictions qu'on rencontre effectivement entre l'idée qu'on se fait de soi, pour faire très simple, et certaines réactions qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Donc plutôt que d'être blessé par ces contradictions, eh bien, on va modifier soit sa façon de penser, soit sa perception carrément de la réalité, pour être plus en adéquation et se retrouver finalement, retomber sur ses pattes dans ces situations-là. Donc c'est un concept qui a été inventé alors historiquement par un monsieur qui s'appelle Leon Festinger, qui est américain, et qui à l'origine, donc là, cette petite séquence un peu Wikipédia historique, hein, qui à l'origine a été mandaté par une entreprise qui s'intéressait à la communication de masse, suite à un phénomène un peu étrange qu'ils ont observé en Inde. Suite à un séisme, il y a eu tout un village qui a été coupé complètement de la communication, en tout cas, et de la circulation. Et ils sont aperçus, quand ils ont rétabli donc, les communications avec ce village, que les personnes de ce village avaient tous comme point commun d'être persuadées d'une réplique sismique à venir. Voilà. Donc ils se sont demandé, mais comment ça se fait que... Et puis c'était pas que un doute ou une crainte, c'était carrément une certitude pour eux. C'était un fait établi qu'il y allait avoir une réplique sismique, alors que rien de rationnel ne le justifiait. Et donc ils se sont dit, mais comment ça se fait que dans ce village, ils ont tous la même opinion, tous la même croyance, et est-ce qu'il n'y a pas un filon là pour notre communication de masse, pour savoir comment manipuler les gens, en gros. Donc ils dépêchent Leon Festinger, et Festinger, il s'aperçoit que finalement, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes se sont trouvées en état d'anxiété, à un moment donné, suite au séisme, qui est plutôt logique, mais que, du fait de la coupure des communications et des éléments de rassurance, eh bien, cette anxiété n'a jamais réussi à descendre. Et qu'à un moment donné, ces personnes se sont retrouvées face à une anxiété qui devenait de plus en plus irrationnelle et dans laquelle ils ne retrouvaient pas leur sentiment de ne pas céder à la panique, par exemple, ou d'être plutôt courageux. Cette anxiété perdurait. Et donc, pour faire tenir l'idée qui se faisait d'eux-mêmes et cette anxiété qui perdurait, les personnes se sont saisies d'une petite rumeur qui a commencé à circuler et l'ont érigée carrément en vérité pour se dire, voilà, je suis anxieux, mais au moins je sais pourquoi. Je suis anxieux parce qu'il y a une vraie raison d'être anxieux et pas parce que je suis dans un état de panique. Voilà. Et donc, ça a ouvert des portes de réflexion à Festinger qui s'est dit que les personnes pouvaient carrément, comme ça, adopter une opinion qui n'est pas la leur, qui ne correspond pas à leur façon de penser, parce que même les personnes très rationnelles, très scientifiques, entre guillemets, avaient aussi cette croyance au moment de la libération, en tout cas, de ce village. Et donc, il s'est dit, voilà, il y a un phénomène qui se passe qui doit être utile pour l'équilibre humain. Et donc, il s'intéresse beaucoup à ça. Et il s'aperçoit que finalement, eh bien, l'être humain, il est davantage... Alors ça vient un petit peu vexer l'idée qu'on se fait de l'être humain en général. On se dit que c'est un être rationnel, l'être humain, qu'il agit en fonction de ses idées, de ses convictions. Mais en fait, Festinger, il vient mettre un petit peu un pavé dans la mare par rapport à ça. Et il vient nous démontrer que finalement, c'est plutôt l'idée de la cohérence qui va l'emporter sur véritablement l'éthique et la morale chez un individu. Je vous prends un petit exemple de la vie quotidienne que tout le monde rencontre. Admettons, je ne dis pas que c'est le cas, mais admettons que je me considère comme quelqu'un de généreux, d'altruiste, de partageur, etc. Et je me balade dans la rue et comme ça arrive, malheureusement, trop souvent, je vois un sans-abri qui me demande de l'argent. Trop souvent, pas parce qu'il me demande de l'argent, mais parce qu'il y a un sans-abri. Hein. Tu m'auras compris.
On a bien compris. Voilà.
Or, j'ai d'autres projets. Il se trouve que j'ai d'autres projets avec les pièces que j'ai dans mon porte-monnaie. Voilà. Et donc, je passe mon chemin sans rien lui donner. Voilà. Je me trouve donc en dissonance cognitive. Dissonance pourquoi ? Parce que mon comportement ne correspond pas à mon idée de moi-même, de quelqu'un d'altruiste et de généreux. Et cognitif, parce qu'en fait, les cognitions, c'est tout ce qui se passe, tous les processus mentaux qui font qu'on a un certain rapport à soi-même, à l'environnement, etc. Donc, voilà. Donc je suis en dissonance cognitive, c'est-à-dire que j'ai eu un comportement qui ne correspond pas à l'idée que je me fais de moi-même. Alors j'ai deux façons de réduire cette dissonance, parce que Festinger nous dit que ça c'est un besoin vital, c'est-à-dire que je ne peux pas rester dans cet état de dissonance indéfiniment. Donc les deux façons que j'ai de réduire les choses, c'est soit de revenir et de donner une pièce finalement, d'avoir une attitude de regret, de remords en tout cas, de revenir et de donner une pièce, mais ça ne va pas forcément absorber le traumatisme en fait que j'ai vécu par rapport à l'idée que je me faisais moi-même, parce que je vais me dire bon, certes je reviens sur mon action, mais mon idée première était un réflexe égoïste, et ça va me demander beaucoup de ressources mentales pour réussir à faire tenir debout. La solution la plus économique et la plus répandue d'ailleurs, hein, je pense que nos auditeurs pourront peut-être se reconnaître là-dedans, ça va être de modifier ma perception de la situation de façon à faire tenir mon comportement égoïste dans quelque chose qui ne remet pas en cause mon altruisme. Alors, sacré défi, vous me direz. Mais en fait, ça va donner quoi ? Ça va donner des raisonnements du type, ce sans-abri est certainement toxicomane, et en tout cas, ou alors il a une tête de toxicomane, et donc, en ne lui donnant pas d'argent, je participe à ne pas financer son addiction, et je refuse de financer son addiction. Autre pensée que je vais pouvoir adopter, ça va être de me dire que finalement, c'est un simulateur de misère, et que finalement, il ne manque pas tant de choses que ça, mais que voilà, il fait le misérable pour favoriser les dons, et que finalement, tout ça, c'est une arnaque. Voilà. Donc voilà comment je vais pouvoir, moi, rester sur mes pattes, en fait, hein, d'altruiste, alors que j'aurais eu un comportement égoïste, motivé surtout par le projet que j'avais avec l'argent qui était dans mon porte-monnaie. Autre exemple, je sais que fumer tue, voilà, c'est écrit sur tous les paquets, mais je continue quand même à fumer. Alors voilà, dissonance cognitive, alors comment est-ce que je vais m'en sortir ? Eh bien, je vais me dire... Eh bien, il faut bien mourir de quelque chose, par exemple. Donc, ça ne change pas à la fin. Voilà. Ou alors, j'arrêterai, mais pas maintenant, parce que là, si j'arrête, ça remet en question mon caractère opérationnel sur d'autres tâches que j'ai à faire, qui sont très importantes. Donc, j'arrêterai quand ce serait le bon moment, mais là, pour l'instant, si je continue, c'est pour me rendre opérationnel sur tout ce que j'ai à gérer. Voilà. Autre exemple.
Oui, ça me pose plein de questions. Mais...
Et vas-y, posez, pourquoi pas.
Après, il y a peut-être aussi des questions d'addiction physiologique, avec le tabac, par exemple.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais encore une fois, l'addiction physiologique, ouais, elle va augmenter la dissonance de la position psychologique, justement, de quelqu'un qui voudrait arrêter, mais qui n'y arrive pas. Donc, soit c'est des choses qui vont toucher à l'estime de soi, c'est-à-dire je ne suis pas capable, ou alors il va y avoir des consolations comme ça qui vont souvent repousser, en fait, le moment de l'arrêt, donner de la nourriture, en tout cas à l'entretien de cet état de fait. Et en fait, finalement, il est vrai que le travail auprès des conduites addictives, il démarre déjà par le fait de rompre ces bonnes raisons, ce mensonge à soi-même, en fait, hein, qui maintient l'addiction, en fait, en place. Et donc, d'arriver à un état de dissonance où la seule façon de s'en sortir, c'est d'arrêter. Voilà. Donc vous percevez maintenant, je l'espère, un petit peu plus ce que vient recouvrir le principe de dissonance cognitive, mais surtout, et ça c'est important, la tendance réflexe presque vitale de réduire la dissonance cognitive coûte que coûte, quitte à escamoter un petit peu ses opinions, à escamoter ses attitudes ou alors ses principes carrément moraux et éthiques. Donc on peut dire que ça relativise grandement quand même l'idée que l'on aime se faire de la pensée humaine, hein, je l'ai dit tout à l'heure, un être vraiment rationnel, dont les comportements sont guidés par ses seules idées et raisonnements, voilà. Mais pour autant, non, ça vient plutôt, la dissonance cognitive, nous apprendre eh bien que le défi principal de l'être humain, c'est de faire tenir des choses qui sont parfois pas forcément compatibles à l'intérieur de lui-même, une part consciente, une part inconsciente. Il y a eu d'autres prêt-à-penser qui ont traité aussi cette question de l'inconscient, que je vous invite à redécouvrir en podcast. Alors ça peut être une approche qu'on peut juger un peu cynique aussi, hein, puisqu'on peut se dire que finalement, il y a toujours une bonne raison de se mentir et de faire le mal finalement. On peut toujours se raconter une histoire qui fait qu'on ne réalise pas qu'on fait le mal, mais d'une autre manière, de façon peut-être un peu plus humaniste, ça nous permet aussi de relativiser notre jugement aussi vis-à-vis de ce qui nous semble parfois être un comportement de girouette ou hypocrite, quelqu'un qui retourne sa veste, voilà. Tendance, c'est des attitudes qui ont tendance à susciter le jugement négatif, beaucoup social. On peut se dire aussi que quand on fait ce genre de choses, ce n'est pas seulement parce que par facilité ou par confort, mais c'est peut-être parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où, au niveau de la dissonance cognitive, on n'a pas pu faire autrement.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci beaucoup, Nicolas. Moi, ça me pose plein de questions, mais je sais qu'on va être un peu hors jeu.
C'est fait pour ça.
Mais on peut pas espérer être un peu cohérent en assumant qui nous sommes.
Si, justement, c'est tout le défi. Il faut jamais prendre les processus psychiques que je décris comme des fatalités. On a la main sur tout. Autre dissonance cognitive, j'ai envie de boire une bière en terrasse, mais je me sentirais vraiment trop bête, vu le temps qu'il fait, d'y aller. On la réduit en se disant, eh bien, soutenons quand même les établissements qui en ont bavé quand même ces derniers mois. Et donc, voilà comment on réduit une dissonance cognitive très d'actualité.